VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bien midi à Nouakchott, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Rwanda, la campagne pour un troisième mandat du président Paul Kagame continue malgré l'opposition de certains groupes comme le parti social Imbonerakure de maître Bernard Ntaganda. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kigali, Bagasikora, qui a rencontré Wilson Ali Kayitare, l'un des initiateurs de la pétition en faveur d'une modification de la constitution rwandaise pour permettre un nouveau mandat du chef de l'État.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier au pouvoir depuis plus de 20 ans achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali. Pour ce jeune homme élancé en costume cravate, les raisons pour maintenir Kagame au pouvoir ne manquent pas.
Nous venons de très loin. Nous n'avions rien, pas de route, pas d'hôpitaux. Et même en 1994, il n'y avait pas de développement. Notre président nous a sortis de cette situation.
À l'en croire, tout commence par des discussions sur les réseaux sociaux. Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017.
On leur a dit, faites comme ça, écrivez des messages personnels au Parlement et celui-ci va faire comme vous voulez.
Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains.
D'abord, permettez-moi de faire la différence entre ces États et ce qui se passe dans notre pays. Les citoyens de ces pays ne veulent pas de leur leader parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ces gens se plaignent d'être en retard, de ne pas connaître de progrès. Pour moi, au nom de la volonté populaire, notre président doit continuer à nous diriger. Mais les dirigeants du Congo ou du Burundi doivent démissionner parce que leur peuple ne les veut pas.
Et si malgré tout, Paul Kagame, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question, décide de renoncer au pouvoir en 2017.
Cela ne me plairait pas, mais je ne pense pas que ça puisse arriver, parce que nous sommes comme une famille au Rwanda. Et si la famille demande un service à l'un de ses membres, celui-ci ne peut pas refuser.
À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagasikura, Kigali pour VOA Africa.
Dans une prochaine édition, vous entendrez maître Bernard Ntaganda du Parti social Imbonerakure qui est contre une modification de la constitution rwandaise. Au Burundi voisin, la présidence burundaise vient d'annoncer la date des prochaines élections dans le pays. Entre autres, les législatives et communales auront lieu le 29 juin et la présidentielle le 15 juillet. Les opposants au troisième mandat du président Nkurunziza ont déjà rejeté hier le nouveau calendrier électoral. Et l'ONU craint que les violences des Imbonerakure, la jeunesse armée du parti CNDD-FDD au pouvoir, ne fassent basculer le pays dans un nouveau cycle d'affrontements. On écoute Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides, au micro de Nicolas Pinault.
Effectivement, la situation est certes préoccupante. J'y ai séjourné à la fin du mois de mai. J'ai rencontré les autorités, j'ai rencontré l'opposition, la société civile. Et j'étais d'autant plus préoccupé que les Imbonerakure, qui sont considérés comme la jeunesse armée du parti au pouvoir, sont devenus véritablement une force sur le terrain. Et de ce point de vue, je ne peux que renouveler l'appel que j'avais fait il y a un an, que j'ai réitéré lors de mon dernier séjour, pour qu'une enquête soit menée par les autorités et que surtout un désarmement effectif soit effectué. Et non seulement, bien entendu, du camp des Imbonerakure, mais également d'autres acteurs qui détiennent aussi des armes qui sont cachées.
Qu'est-ce qui, malheureusement, selon vous, pourrait faire dégénérer la situation?
Ma grande crainte, c'est que demain, cette crise qui est aujourd'hui à caractère essentiellement politique puisse déboucher sur une crise ethnique. Et connaissant l'histoire faite de violences et de tueries au Burundi, j'ai bien peur que si on n'arrive pas à arrêter cette crise, le pire pourrait arriver. Si l'on s'entête à rester sur des positions radicales, ce qui risque d'arriver tout simplement, c'est que les craintes d'attaque contre les populations fondées sur l'appartenance politique ou l'appartenance ethnique, eh bien, j'ai bien peur que ces craintes vont se révéler dans la pratique avec un accroissement de la violence. Il est essentiel aujourd'hui que les autorités du Burundi garantissent le respect des droits fondamentaux et l'état de droit, en particulier durant cette période de forte tension, et ceci en respectant les obligations internationales du Burundi en matière de droits de l'homme.
Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, au procès du commandant Jean-Noël Abéi au tribunal militaire d'Abidjan, le commandant Abéi, un pilier de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo, est poursuivi pour complot et désertion à l'étranger. Selon l'AFP, le commandant Abéi a déclaré hier au procès qu'il avait déserté uniquement pour sauver sa vie et non pour préparer un complot. « Ma tête avait été mise à prix, on voulait m'assassiner », a-t-il dit, « pour se défendre ». L'ONU Femmes vient de publier son rapport sur la situation des femmes dans le monde. Lancé à Dakar au Sénégal, le document propose l'élaboration de politiques en vue de transformer les économies et de concrétiser l'égalité hommes-femmes. Pour plus de détails, Camille Grodidier a contacté à Dakar le docteur Joséphine Odera, représentante régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Le rapport soulève plusieurs défis sur les lieux de travail, par exemple. L'écart salarial, où les femmes touchent beaucoup moins que les hommes, même pour le travail égal. Les femmes, pour la plupart, gagnent 24% de moins que les hommes dans le monde entier. Si on prend quelques exemples en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, l'écart s'élève à 39%, alors qu'au Mali, c'est à 63%. Donc déjà là, vous voyez qu'il y a une discrimination contre les femmes. Il y a d'autres obstacles qui se posent. Selon les chiffres qu'on dispose, 75% des femmes se trouvent dans le secteur informel. Et là, c'est un travail qui n'a pas de protection sociale, où les rémunérations sont très faibles, où il y a même l'insécurité au niveau de la personne même, parce qu'il y a du harcèlement sexuel et d'autres dans le travail informel. Il y a d'autres défis qui se posent au niveau du travail, par exemple du travail domestique. Et là, on nous fait une plaide pour les emplois décents.
Pour mieux protéger les femmes dans le travail, le rapport d'ONU Femmes préconise un mélange de mesures économiques et sociales grâce auxquelles les gouvernements pourraient justement promouvoir et protéger leurs droits.
Tout à fait d'accord. Si on prend l'exemple du travail domestique, là, il y a la convention sur le travail domestique que certains pays ont signé, ont adopté, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ratifié la convention. Par contre, la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme est presque à 90% signée et ratifiée. Mais c'est la mise en œuvre de cela. Mais qu'est-ce que cela donnerait aux femmes comme bénéfice? D'abord, si certains travaux sont reconnus comme importants, si ce travail devient visible, les femmes seraient mieux rémunérées, les femmes auraient la protection sociale, ou bien les femmes pourraient aussi bénéficier des allocations ou bien des bourses familiales. Ça, c'est un travail de gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques sociales appropriées et adaptées aussi aux besoins des femmes.
Docteur Joséphine Odera, représentante régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'ONU Femmes. La lutte contre le groupe État islamique, le président Barack Obama devrait se prononcer peut-être dès cette semaine concernant le plan d'envoi de jusqu'à 500 formateurs militaires américains supplémentaires en Irak, dans le cadre des efforts du Pentagone pour renforcer les troupes irakiennes qui se battent contre les djihadistes. Et pour terminer, les leaders de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud signent aujourd'hui un traité de libre-échange à Sharm el-Sheikh en Égypte. Objectif, créer la zone tripartite de libre-échange qui regroupe 26 des 54 États du continent, notamment l'Égypte et le Nigeria. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.